garde aux voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines, je suis ravie de vous retrouver en direct. Aujourd'hui, nous parlons du miel. C'est l'un des produits naturels les plus contrefaits au monde. La Chine est officiellement le premier producteur mondial de miel et de faux miel, sorte de mélasse de glucose qui n'a dans ces cas-là aucun lien avec les abeilles. Si le miel authentique semble de plus en plus menacé avec la disparition programmée des abeilles, le miel se relance aussi, notamment en Afrique, avec de petites structures qui se professionnalisent et de vrais revenus complémentaires pour les habitants. Alors comment reconnaître un bon miel authentique? Comment protéger, développer l'apiculture? Quelle différence avec la cueillette par le feu? Quelle transparence aussi dans la législation des étiquettes? Depuis quelques jours, par exemple, la France a une réglementation plus stricte. Les producteurs doivent indiquer les pays de provenance du miel sur les emballages. Avec quelques limites, on le verra. Et les voisins, dites-nous que vous soyez consommateur, apiculteur, appelez-nous si vous aimez le miel. Miel de cajou, de baobab, de cacao, de café, de karité ou en Europe, miel toute fleur, miel de lavande, de romarin, d'eucalyptus. J'en oublie certainement beaucoup. En tout cas, vous pouvez nous téléphoner sur notre compte WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. Je vous présente nos invités. Julien Henry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la Maison du Miel à Paris. Vous avez publié Les Merveilles du Miel aux éditions Tana. Également avec nous, Alain Chevalier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président d'API Flore d'Ève, une association de solidarité internationale qui a été créée en 2003 pour faire de l'apiculture une activité génératrice de revenus, essentiellement dans les pays du Sud, notamment en Afrique. Et vous êtes en liaison avec nous grâce aux moyens techniques de Radio France à Lyon, que nous remercions. En deuxième partie d'émission, on sera en ligne avec Nazénion Silué, apiculteur ivoirien, délégué de l'Union des apiculteurs de la région du Hambol, dans la région, dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans la région de Katiola. Et bien sûr, je vous rappelle, notre compte WhatsApp sur lequel vous pouvez nous contacter, 33 7 64 45 51 41. Vos messages, Cléophase Nazer qui est à Lubumbashi en RDC. Je consomme régulièrement du miel sous forme de pain miellé. Moi j'aime le miel naturel qui provient des villages. Je ne consomme pas celui qui est vendu à Lubumbashi parce que les revendeurs ajoutent de l'eau, du sucre au miel naturel. Écoutez aussi ce voisin.
Bonjour cher voisin, je m'appelle Marcelin Guémar, j'appelle depuis Libreville au Gabon. Je suis un grand consommateur de miel, je l'adore. Et je l'aime notamment lorsqu'il est naturel, c'est-à-dire lorsqu'il a été récolté de façon artisanale. Et je le mange généralement avec des tartines, c'est-à-dire je le tartine sur du pain croustillant, ou encore pour sucrer des tisanes, notamment la citronnelle, les fleurs de l'hibiscus, ou encore pour concocter une recette très efficace contre la grippe et, ou la toux qu'on fait ici au Gabon, c'est-à-dire on prend du miel qu'on va mélanger avec du jus de citron et un peu de jus de gingembre. Donc, je le choisis en fonction de la couleur, c'est-à-dire plus il est brun foncé ou onctueux, plus il est meilleur et riche en vitamines. Par contre, s'il est clair, c'est pas du tout bon en fait. Il a perdu toute sa saveur et tous ses nutriments. Je n'en produis pas, mais nous avons la chance d'avoir les récolteurs traditionnels qui vont en chercher en forêt et qui les revendent ici dans de grands récipients. Et généralement, ce sont les abeilles qui nous indiquent que le miel est naturel.
Merci Marcelin pour ce message. Reconnaître le miel à sa couleur, ça dépend peut-être des pays. On va en parler avec nos invités. En tout cas, vous continuez de nous téléphoner. Vous pouvez aussi poser toutes vos questions à nos spécialistes au 33 7 64 45 51 41.
7 milliards de voisins.
C'est sur RFI.
Julien Henry, on voit tout de suite le connaisseur. Je vous ai vu faire la grimace quand vous avez écouté le message de Marcelin qui dit qu'on peut reconnaître un bon miel à sa couleur. Alors, comment on reconnaît un bon miel ? La couleur ou pas ?
Non. Non, il y a des bons miels de toutes les couleurs. Les couleurs sont liées au nectar qui sont butinés par les abeilles. Et voilà, alors en Afrique, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de miels qui sont foncés, mais il y en a aussi des très clairs.
C'est dû à la végétation, en fait.
C'est dû à la végétation.
Comme le miel de châtaignier en France qui va être plus foncé qu'un miel de lavande,
voilà,
par exemple.
Et après, ce qui peut être vrai, c'est qu'on a certains miels en France. Donc le miel, c'est les miels, on va dire, issus d'arbres résineux, qui sont très noirs. noirs, très foncés, avec des textures sirupeuses très particulières, qui eux sont un peu plus riches en oligo-éléments. Mais c'est parce que c'est des miels-là, et ce n'est pas la couleur qui indique vraiment la qualité d'un miel. En fait, vous avez des miels d'acacia qui sont dorés, transparents, et qui sont d'une qualité incroyable. Enfin voilà, et c'est très compliqué. On ne juge pas la qualité d'un miel par rapport à sa couleur, par rapport à sa texture, par rapport à son goût non plus. Voilà, pour moi, la seule façon en fait de distinguer un miel de qualité, c'est les analyses biologiques qu'on fait nous sur chaque récolte. Voilà.
Alors, comment sinon reconnaître un bon miel pour un consommateur, Alain Chevalier, si c'est pas à la couleur?
Un bon miel, alors j'ai entendu parler des miels de forêt en Afrique. Très souvent, ces miels, on trouve beaucoup d'impuretés à l'intérieur. Et on trouve des miels très fumés, parce que donc on a utilisé beaucoup de feu pour les récolter. Et en Afrique, on a de très bons miels. On parlait d'acacia. Alors en Europe, c'est plutôt le robinier, le faux acacia. Mais en Afrique, on a beaucoup d'acacia qui donnent également des miels clairs, de très grande qualité, d'eucalyptus également. Voilà, donc je suis tout à fait du même avis que Julie Henry. C'est pas la couleur du miel qui fait la qualité, mais un miel bien filtré, peut-être de très bonne qualité. Et voilà, c'est pas forcément un miel trouble et mal conditionné qui fait un bon miel. Voilà.
Alors justement, Julien Henry, qu'est-ce qui compte le plus pour faire un bon miel? Est-ce que ce sont les abeilles? Est-ce que c'est la végétation qui est butinée, les fleurs? Est-ce qu'il y a l'humidité, les conditionnements aussi? Qu'est-ce qui compte?
Il y a plein de paramètres. En fait, déjà, tout commence par la terre et la végétation. Il faut avoir une belle végétation pour que les abeilles puissent se nourrir naturellement, sans avoir besoin de compléments pour les aider à passer les saisons.
De compléments alimentaires, hein, parce qu'on leur donne des compléments alimentaires.
En France, les apis, aujourd'hui, les abeilles, la plupart des abeilles n'arrivent plus à passer l'hiver, à part peut-être quelques endroits en Corse où il reste quelques miellets, on va dire, d'hiver qui leur permettent de se nourrir naturellement. Mais sinon, ces dernières années, les apiculteurs, pour pas avoir leur cheptel mort au début du printemps, les nourrissent. Alors ça peut être avec du miel, ça peut être avec du sucre, etc. Ce qui n'est pas très grave parce qu'en hiver, les abeilles ne produisent pas de miel, donc on ne retrouve pas de sucre dans le miel. Là où c'est un vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les apiculteurs sont amenés à nourrir de plus en plus proche des récoltes, parce que même au printemps, là où normalement la végétation renaît, elle ne renaît plus dans énormément d'endroits, chez nous, en France, je parle. Voilà.
Les conditionnements, c'est important ou pas?
Le conditionnement est très important. On va dire qu'un conditionnement mal fait, c'est-à-dire qu'on va chauffer le miel pour aller plus vite, ça va abîmer le miel, clairement. Mais il n'y a pas que le conditionnement, ça peut être un mauvais stockage du miel aussi, c'est-à-dire que dans les pays chauds notamment, il suffit que le miel soit stocké dans un hangar à forte chaleur, ça va aussi dégrader le miel, tout comme un conditionnement, parce qu'à part dans une ruche, il fait 40 degrés, en fait. Donc le miel se conserve à 40 degrés tranquillement. Seulement, dans la réalité, en été, un miel qui est dans un fût, dans un hangar, ça monte très facilement au-dessus de 40 degrés. Et en plus, c'est pas tant la chaleur que l'exposition sur la durée, en fait, à cette chaleur, même si elle n'est pas très intense, qui va abîmer le miel. Voilà.
Alain Chevalier, quand je parlais de conditionnement, il faut aussi prendre en compte les récipients dans lesquels sont stockés et revendus le miel. Récipients en plastique, bocaux en verre. Est-ce que ça fait une différence sur le maintien de la qualité du miel?
Le verre est très bien. Le verre, c'est plus difficile, c'est lourd, c'est pas forcément disponible, et le plastique est souvent plus accessible. En tout cas, si le plastique est utilisé, il faut que ce soit un plastique alimentaire, évidemment, et un plastique qui n'est pas contenu des produits non alimentaires auparavant, ou des savons, voire même des hydrocarbures en Afrique. C'est très compliqué, quelquefois, de trouver des plastiques, des contenants plastiques de très bonne qualité.
Quelle est l'ampleur du marché local en Afrique en ce qui concerne le miel? Est-ce qu'on continue de consommer du miel dans les villes, par exemple?
Alors, on consomme du miel en Afrique. Le miel est très recherché. Il n'est pas consommé dans les mêmes quantités par ménage, peut-être qu'en Europe, parce que
l'Europe étant le premier consommateur mondial de miel, hein, si on additionne tous les pays.
Voilà. Alors déjà, c'est un produit cher, puisque le miel est quand même bien valorisé. C'est-à-dire le miel est bien vendu. C'est-à-dire que produire du miel, ça apporte vraiment un revenu. Donc, acheter du miel, c'est pas à la portée de tous. Et souvent, donc, le miel est vendu en très petite quantité et considéré plus comme un outil thérapeutique qu'un aliment plaisir oui. comme en Europe.
Oui, voilà. On a entendu les recettes de grand-mère que nous donnait Marcelin, hein, avec du citron, etc. Mais voilà. D'autres le consomment aussi sur du pain. Mais ça veut dire que quand vous dites que le miel est bien vendu en Afrique, c'est comparativement au niveau de vie. Ça veut dire qu'il faut produire une quantité moins importante de miel pour générer un revenu finalement relativement conséquent en Afrique ?
Alors, il faut produire moins de miel. De toute façon, en général, on produit moins de miel. C'est-à-dire que l'abeille africaine, enfin en Afrique centrale, par exemple, ou dans des régions tropicales, même subsahariennes, on n'a pas les hivers de l'Europe. Donc, on n'a pas une abeille qui va stocker autant, parce qu'elle n'a pas ce besoin-là de faire de grandes provisions pour passer l'hiver. Donc, elle va produire moins. Et plus lissée, voilà, la production sera plus lissée
sur l'année. Oui, voilà, parce absolument. qu'elle ne risque pas de mourir de faim l'hiver, contrairement à l'Europe. Justement, ce qui est intéressant, vous nous disiez que c'est finalement une culture assez rentable à l'échelle du niveau de vie en Afrique, et pourtant le métier n'a pas une image très moderne sur le continent africain, Alain Chevalier.
Alors, le métier a une image moderne, c'est-à-dire que les villageois, les personnes ont vraiment envie de faire de l'apiculture. C'est très souvent les moyens qui manquent, parce que acquérir une ruche, c'est quand même cher, le bois est cher. Construire une tenue, ça revient cher. Trouver des récipients, c'est cher, enfin de quoi le conditionner. Et les transports sont très chers pour amener le miel sur le lieu de commercialisation.
Voilà. Moussa nous envoie ce message sur notre compte Instagram 7 milliards RFI. Il est à Niamey, au Niger. Il nous dit, moi je l'achète autour de 3500-4000 francs CFA. Donc ça fait 5-6 euros le litre. Le miel est moins cher au village. Sont des prix que moi j'ai retrouvés un peu à l'échelle du continent.
Alors, sur Kinshasa, c'est loin de Niamey, mais sur Kinshasa, on peut vendre du miel jusqu'à 15 dollars le kilo. Le litre, plutôt. C'est plutôt vendu au litre. Hein, oui. Voilà. Donc, 15 dollars le litre. Donc, c'est un bon revenu. Si un apiculteur produit ne serait-ce que 10 litres de miel, un revenu de 150 dollars pour une ruche, c'est très important.
Voilà, Julien Henry, sur les prix.
Oui, alors moi, sur le coup, je ne suis pas spécialiste de l'Afrique, mais on va dire que sur les pays du Maghreb, par exemple le Maroc, etc., le miel est souvent produit par des coopératives de femmes. Et oui, on peut monter jusqu'à des prix qui vont jusqu'à 20 euros le kilo, même là-bas.
Ouais,
et
même
en fait, ce qui
plus,
est plus cher que ce qu'on pratique même chez nous en France. Donc après, les capacités de production sont aussi petites, c'est-à-dire que, comme était expliqué avant, on ne peut pas produire énormément.
Ouais. C'est à la fois un produit donc, très rural, hein, qui parfois peut avoir une image un peu ringarde, un peu passéiste, et en même temps un produit de luxe quand on voit les prix que vous nous énoncez, hein, tous les deux. Alors on va donner la parole à une auditrice au 33 7 64 45 51 41. Mireille est au téléphone avec nous de Bobo-Dioulasso au Burkina. Bonjour Mireille.
Oui, bonjour chers voisins.
Merci à vous d'être en ligne avec nous Mireille. Vous avez un métier et par ailleurs, je crois que vous êtes ingénieure d'élevage, mais par ailleurs vous vous lancez dans une deuxième activité comme revendeuse de miel, c'est bien ça Mireille ?
Oui, oui.
Ouais. Où est-ce que vous en êtes exactement là ? Comment vous faites ?
Le miel, je le prends en gros auprès des petits producteurs dans les villages, dans les zones rurales, plus précisément dans la province du Yoba. Je les revends à Bobo autour de 4000 francs le litre.
Oui, donc autour de 5-6 euros.
Voilà, pour le moment, en fait, je n'en produis pas, mais je prévois me former auprès de ceux qui en produisent. Ceux qui font déjà la pratique. Quoi.
Et pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans ? Parce que vous cherchiez une deuxième activité professionnelle qui pourrait vous apporter un revenu complémentaire ?
Oui.
C'est ça. Et c'est quelque chose qui, pour vous, a l'air d'être assez rentable ou pas encore pour l'instant, Mireille ?
Bon, pour l'instant, comme je viens à peine de commencer, donc je n'ai pas vu trop d'économies comme ça et de bénéfices plutôt. Mais je vais continuer, peut-être que la suite, je verrai assez de bénéfices.
Et vous souhaiteriez carrément produire du miel ?
Oui, si c'est possible. Et puis j'ai l'espace, je préfère produire moi-même là, au moins je sais à quel miel j'ai affaire.
Ah oui, Oui, parce que quand vous achetez, vous ne savez pas trop ce que vous achetez.
Oui. C'est vrai que c'est produit dans les zones rurales, mais bon, en réalité, bon, on ne sait pas comment c'est produit, quoi.
Oui, ben c'est un peu la question que tout le monde se pose. Et vous-même, vous avez des parcelles, Mireille, pour éventuellement vous lancer dans une production ?
Non, pas pour le moment.
D'accord. Vous avez des questions à poser, une question technique peut-être à poser à nos invités ?
Peut-être. La question est que comment reconnaître un bon miel, en fait ?
Oui, la question, c'est une vraie question pour ceux qui revendent dans les villes sur le continent africain. Comment s'assurer que le miel n'a pas été coupé avec du sucre ? C'est ça, finalement, Mireille ?
Oui.
Alain Chevalier.
Alors, avec le sucre, bon là, ce seront des analyses, comme le disait Julien Henry tout à l'heure. Mais il y a un petit appareil qui est très pratique et qui n'est pas très cher, c'est le réfractomètre. Et nous, c'est notre outil pédagogique lorsqu'on va en Afrique. Le réfractomètre permet de mesurer le taux d'humidité dans le miel. Un miel qui aura plus de 18% d'humidité fermentera. Voilà. Donc, la qualité des récoltes est très importante et nous, on travaille beaucoup avec ce petit appareil. Voilà.
Alors, oui, parce que quand on dit que le miel est coupé, il est coupé avec du sucre et de l'eau, forcément, pour faire plus de volume. Donc, ça va être détecté au réfractomètre, le surplus d'humidité. C'est bien ça, si j'ai bien compris.
Le surplus d'humidité, oui. Alors,
ça coûte cher un réfractomètre ou pas ? Je pose la question pour Mireille.
Alors, on trouve ça pour 30 euros ou 30 dollars, maintenant c'est pareil, mais ce qui est assez élevé, mais c'est un outil presque indispensable si on veut travailler dans la commercialisation du miel, acheter du miel pour le revendre.
Ok, bien attendu.
Alors, au Burkina Faso, il y a un organisme qui s'appelle Wanpuire, qui forme les gens à l'apiculture et qui intervient auprès de beaucoup de villages, de villageois dans le domaine de l'apiculture.
Oh, ok, bien entendu, j'ai noté.
Bonne chance Mireille, vous nous tenez au courant pour vos projets d'apiculture. Merci beaucoup de nous avoir téléphoné, vous pourrez continuer de nous appeler pour témoigner de vos difficultés aussi, peut-être en tant que producteur de miel ou revendeur, et poser toutes vos questions à nos invités au 33 7 64 45 51 41. Bonne journée à Bobo Dioulasso, Mireille.
Merci, bonne journée à vous aussi.
Alain Chevalier, comment concrètement vous faites avec votre association pour aider, pour protéger, pour réimplanter des ruches, sachant que le miel est essentiellement produit par cueillette ? On va peut-être expliquer la différence sur le continent africain.
Alors, effectivement, nous intervenons sur un certain nombre de projets pour justement passer de la cueillette à l'apiculture. Parce que dans beaucoup de régions, dans beaucoup de pays en Afrique, effectivement, la cueillette est de plus en plus difficile parce que les abeilles se font plus rares, le déboisement est là, et les cueilleurs, qui sont des chasseurs, donc trouvent de moins en moins de miel.
Parce qu'ils trouvent moins d'arbres où les abeilles se sont logées et ont fait leur ruche, finalement.
Absolument. Et en Afrique centrale, par exemple, il y a beaucoup de populations autochtones, populations pygmées, qui étaient de grands cueilleurs de miel et qui se mettent à l'apiculture. Dans le Tanganyika, en République démocratique du Congo, avec des populations autochtones Toua, nous avons installé avec la FAO 850 ruches et ce sont ces populations-là qui deviennent apiculteurs. Voilà.
Et dans ces cas-là, ce sont des ruches comme celles qu'on voit en Europe. En quoi sont-elles fabriquées, ces ruches ?
Alors, dans cette région, elles sont fabriquées en bois. Dans d'autres régions, elles peuvent être fabriquées en terre, en osier, avec de la bouse de vache. Enfin, tout est possible en apiculture, même du béton. Voilà. Donc là, c'est du bois. Nous, notre association, nous n'importons rien dans les pays, c'est-à-dire que, avec beaucoup d'humilité, nous observons, nous regardons ce qui se fait, ce qui est maîtrisé, ce qui est connu et ce qui peut se faire pour que nos projets soient pérennes. Voilà. Donc, les ruches sont fabriquées sur place, avec le bois trouvé sur place et les menuisiers locaux. Donc c'est en plus une activité génératrice de revenus pour des métiers complémentaires. Les tenues d'apiculteurs sont faites sur place par des couturiers. Voilà, il faut juste trouver quelquefois un peu de voile parce qu'il faut quelque chose d'un peu plus costaud que la moustiquaire pour faire un voile de tenue d'apiculteur. Mais voilà, donc on fait tout sur place. Et puis c'est de la formation. Alors la formation, sachant qu'on ne va pas transposer l'apiculture européenne en Afrique. C'est-à-dire, comme je disais, il faut observer, il faut comprendre, et puis se servir de ce que l'on connaît pour transposer des techniques. Et voilà. Donc, par exemple, la multiplication de colonies par division de ruches, c'est une technique qui est possible et que l'on peut enseigner pour travailler avec l'abeille locale, bien sûr. On ne transporte pas non plus d'abeilles.
On disait au début de l'émission, Alain Chevalier, que l'essentiel de la consommation du miel en Europe était du miel importé, notamment en France, où on importe 70% de ce qu'on consomme. Est-ce qu'en Afrique aussi, aujourd'hui, il y a du miel qui est importé, qui arrive par exemple de Chine ou d'ailleurs d'Argentine ?
Absolument, il y a du miel qui arrive dans toutes les capitales africaines. On voit dans les magasins des miels avec des beaux packaging. Ce sont des miels clairs, hein, la plupart du temps. Et qui viennent, bon, c'est pas trop doux, mais très souvent, ils arrivent par les pays du Golfe. Mais du Golfe Persique. Ils ne sont sans doute pas produits ici.
Julien Henry, il faut qu'on parle des. Bon, on a pas mal de questions d'auditeurs hein, sur les fraudes. Quelle est la nature des fraudes si on prend les pays d'Europe, si on prend la France, et d'ailleurs des fraudes qu'on peut retrouver ailleurs hein. Voilà. On parlait de miel coupé avec de l'eau, avec du sucre.
Alors là, pour poser un peu les choses, en gros, pour parler de la France, on consomme historiquement 40 000 tonnes de miel par an. Avant, on en produisait 40 000 tonnes. L'année dernière, on est monté entre 9 et 17 000 tonnes de miel. Ce qui fait qu'automatiquement, on n'en a pas assez. Donc, il faut en importer. Aujourd'hui, dans les médias, il est bon ton, en fait, plutôt que de regarder pourquoi on ne produit plus assez de miel, de dire c'est la faute des autres, les vilains chinois, etc. Les Chinois sont les plus gros producteurs de miel au monde. Donc, forcément, il y a plus de mauvaises choses, mais il y a aussi des choses très bonnes. Quand on y va, ils nous expliquent clairement, c'est comme pour le thé, c'est eux qui produisent les plus beaux thés du monde. Si vous venez pour avoir un bas prix, vous aurez la qualité qui va avec. Donc c'est normal. Les fraudes qu'on a en France, c'est pas des fraudes de vilains mélanges, etc. C'est parce que sur les miels, en France et sur une partie de l'Europe et sur d'autres continents, les abeilles ne peuvent plus survivre naturellement. C'est-à-dire que les apiculteurs les nourrissent de plus en plus proches des récoltes. Et ce qu'on retrouve, c'est des remontées de sucre dans le miel. Voilà. Les apiculteurs sont fautifs, mais en fait sont face à des dilemmes. En gros, c'est-à-dire que soit ils laissent mourir leur colonie, ça peut être 400, 1000 ruches durant un hiver parce qu'elles n'auront pas assez à manger, et dans quel cas, eux arrêteront leur activité, ou alors ils les nourrissent pour les faire survivre absolument. Et donc en fait, c'est plus ces dérives-là. Après, sur les mélanges de miel, il y a des fraudes, on va dire, en termes d'origine.
On a le droit hein, de faire comment vous appelez ça ?
Des mélanges. Oui. On a le droit de faire des mélanges. Après, aujourd'hui, enfin jusqu'à il y a très peu.
1er juillet.
Voilà, on pouvait faire des mélanges. Et sur ces mélanges-là, était indiqué miel originaire UE, non UE. Donc en fait, finalement.
Union européenne, non Union européenne.
Voilà. Ouais. Et donc en fait, cette indication vous indiquait réellement, ça, c'est un miel de mélange. Donc on pouvait l'acheter si on voulait un miel à bas prix. Voilà. Mais ce qui, encore une fois, n'a aucun rapport avec la qualité du miel. C'est-à-dire que c'est un mélange de miel dans lequel on n'a pas indiqué l'origine.
Aujourd'hui, depuis le 1er juillet, on doit, en principe, les étiquettes doivent indiquer le ou les pays de provenance du miel.
Oui.
Par ordre décroissant en proportion, hein, c'est ça.
C'est ça. Et du coup, c'était quelque chose qu'on pouvait faire aussi jusqu'à maintenant et que beaucoup faisaient finalement. Et que le problème ne vient pas d'une question d'origine, mais de qualité des miels. Voilà. Et de problématiques de production.
Donc un miel d'Argentine, aujourd'hui, qui est vendu en France, doit être étiqueté comme un miel provenant d'Argentine.
Oui, tout à fait.
Ce qui n'était pas le cas avant.
On n'avait pas l'obligation de marquer l'origine. Voilà. Même sur les miels qui viennent d'un seul pays, d'ailleurs. Oui, c'est vrai.
Qu'en est-il des contrôles autrefois, jusqu'à cette nouvelle législation, il n'y avait pas beaucoup de contrôles, ni à la production, ni à l'importation.
Sur la production, il y a toujours eu des contrôles, sur des analyses, etc. La DGCCRF vient, fait des prélèvements, etc. Après, sur les étiquettes de contrôle UE, non UE, il n'y en avait pas forcément parce que c'était autorisé, finalement. Aujourd'hui, par contre, je pense que les contrôles vont être renforcés quant aux pays indiqués sur les étiquettes afin que ça corresponde réellement à ce qui est indiqué, vu que c'est dans la loi aujourd'hui.
Oui, mais ce n'est pas évident de savoir si on a rajouté des sucres. Techniquement, ce n'est quand même pas si simple. C'est assez coûteux, non ?
Alors, il n'y a aucune obligation. Alors, le miel dans lequel on rajoute de sucre est interdit. Le miel doit être un produit pur, issu, fabriqué
sinon,
par l'abeille.
C'est pas
issu
du miel.
Sinon, ce n'est pas du miel. Après, en fait, pour la seule façon de savoir s'il y a eu des sucres ajoutés, alors j'entendais le réfractomètre, etc. Réfractomètre, c'est pour le taux d'humidité. Mais le taux d'humidité, c'est pas pour voir si on a rajouté de l'eau dans le miel, c'est pour voir si le miel est mature à la récolte et ce qui va garantir la longévité de conservation du miel.
Mais en
aucun cas, on va déceler une fraude. Ça, non.
Non, bien sûr, mais ça peut quand même... qu'est-ce que vous en pensez, Alain Chevalier ? Ce que vous nous expliquiez, Alain Chevalier, c'est que ça donnait une indication s'il y avait un trop fort taux d'humidité. Ça pouvait être un signe que ça avait été coupé avec de l'eau, non ?
C'est ce que j'avais compris.
Voilà, c'est un miel qui est trop humide. Donc, il peut être trop humide parce qu'on a mis de l'eau dedans ou il peut être trop humide parce qu'il a été récolté non mature. Voilà.
C'est ça, on est d'accord.
L'abeille, elle l'opercule, la cellule, lorsqu'elle a suffisamment déshydraté son miel et l'a amené à 16-17% d'humidité. Voilà. Donc, si on récolte du miel non operculé dans une ruche, et on travaille beaucoup sur la qualité du miel et les récoltes, on peut avoir un miel trop humide qui va fermenter.
Vous restez bien sûr avec nous. On a pas mal de questions d'auditeurs. Pourquoi on dit que certains miels du Manuka sont efficaces et d'autres non? J'avais aussi des questions sur les variétés d'abeilles. Et bien sûr, vous êtes aussi nombreux à souhaiter prendre la parole sur le métier d'apiculteur. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. On vous donne la parole juste après le dernier single de John Legend avec Mooney Lang.
Honey makes the world go round, the world go round, ain't it lovely? Wait for when I go down, when I go down. A million kingdoms will fall, so many crowns will be lost, all for a taste I would pay any cost. You're sweeter than
John Legend, vous êtes sur RFI en direct, 7 milliards de voisins, on parle du miel, énormément de questions d'auditeurs sur le miel, la production, la vente de miel en tant que consommateur, en tant qu'apiculteur. Et on en discute bien sûr avec nos invités, Alain Chevalier, président d'API Flordev, l'association de solidarité internationale qui a été créée en 2003 et qui essaye de faire de l'apiculture une activité génératrice de revenus, notamment sur le continent africain. Julien Henry, directeur de la Maison du Miel à Paris. Une question d'un auditeur, Faisal, qui est au Bénin, qui nous dit « Quelle est la durée de conservation maximale du miel, Julien Henry ?»
S'il est bien stocké, indéfiniment. Et en fait, bien stocké, c'est-à-dire à l'abri des variations de température et de l'humidité. Voilà. Mais sinon, on peut le garder. Il y a des légendes comme qu'on aurait retrouvé du miel dans des pyramides encore consommables,
égyptienne,
etc. Ouais, voilà. Mais enfin, qui ne sont pas des légendes d'ailleurs, mais vraiment, le miel se garde indéfiniment.
Vous avez la parole au 33 7 64 45 51 41. Une question aussi de Yannick. Est-ce que toutes les espèces d'abeilles produisent du miel? Est-ce que la génétique influe sur la qualité du miel? La génétique des abeilles?
Alors, il y a beaucoup de races d'abeilles. En fait, c'est un peu compliqué. Il y a l'Apis mellifera, qui est la race sur laquelle, qui produit du miel avec l'appellation miel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui ont d'autres abeilles, notamment la Mellipona, qui fait un miel qui est très liquide, qui est une abeille qui ne pique pas, qui fait des miels très bons, mais qu'on n'a pas le droit d'appeler miel en Europe pour une histoire de législation. Voilà.
Et on retrouve ces abeilles-là dans quel pays ?
Notamment en Amérique du Sud. Je crois qu'on peut en trouver aussi un peu en Afrique.
Oui, Alain Chevalier.
Et en Indonésie, dans pas mal de pays.
C'est finalement pratique, une abeille qui ne pique pas quand même. Hein. Ça serait le rêve de tous les apiculteurs.
Ah oui, la Mellipone ne pique pas, c'est l'abeille standard, mais elle a des très petites productions, petites productions. Mais c'est très intéressant.
Une question d'Arlette qui est à Pointe-Noire au Congo, peut-être Alain Chevalier, vous pouvez répondre. Pourquoi dit-on que certains miels de Manuka sont efficaces et d'autres non ? Je pense qu'elle entend pour des remèdes médicaux.
Alors, Sur le miel de Manuka, je connais mal l'efficacité des miels. Alors c'est vrai que on attribue aux miels monofloraux
plus de vertus.
Voilà, certaines vertus.
Quand on dit monofloraux, ça va être par exemple un miel de karité, un miel de lavande, donc des abeilles qui ne butinent qu'un type de végétation.
C'est ça. La technique pour obtenir un miel monofloral, en fait, c'est d'amener ces ruches très, très souvent, donc il faut faire de la transhumance, ou être sur un spot particulier. On amène ces ruches au bord du champ de lavande au début de la floraison. Et on va récolter le miel juste à la fin de la floraison. Et statistiquement, comme l'espace est saturé en lavande, les abeilles ont butiné de la lavande. Et on a un miel monofloral de lavande. Ouais. Et c'est pareil pour le café, le colza, le tournesol, etc.
Julien Henry, vous souhaitez apporter une précision sur l'efficacité
Oui, alors tous les miels. Historiquement, le miel a toujours été utilisé dans la pharmacopée. Pour le miel de Manuka, en fait, c'est un miel qui est beaucoup utilisé pour la cicatrisation. Mais en fait, c'est surtout qu'il vient de Nouvelle-Zélande et qu'ils sont très forts en fait en marketing. Donc, on a su faire un gros travail pour communiquer sur ce propos. Et par exemple, chez nous, on a le miel de thym aussi qui est utilisé dans les CHU pour la cicatrisation des amputés. En fait, la structure biologique du miel fait qu'elle attire l'humidité, par exemple. Et quand on a une plaie ou une brûlure, c'est ça, c'est cette action en fait du miel qui va attirer justement tout le pus, etc.
Et il n'y a pas de bactéries, surtout dans le miel.
Il n'y a pas de bactéries,
donc,
voilà.
Donc ça isole de...
Donc tous les miels peuvent avoir une efficacité. Par contre, voilà, on n'a pas le droit aujourd'hui de valoriser, on va dire, ces vertus avec les lois européennes. Et voilà. Et après, il y a une grosse question de marketing sur le Manuka. Il ne faut pas acheter des miels de Manuka qui valent des milliers et des milliers d'euros. Si à côté de chez vous, vous avez un apiculteur qui fait un miel de qualité sur une petite plaie ou sur un mal de gorge, ça fera le même effet.
Bon, merci pour le conseil, en tout cas Julien Henry. Vous continuez de nous appeler au 33 7 64 45 51 41. On est en ligne avec Alassane, qui est revendeur de miel à Bamako. Bonjour Alassane.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous Alassane. Comment ça se passe ? Vous vous procurez du miel de Sikasso, je crois. Hein ?
Oui, c'est bien ça.
Oui.
En fait, moi je suis Alassane Keita de Bamako. Vendeur du miel. Donc, mon miel vient de la région de Sikasso. Donc, c'est là-bas que j'ai payé mon miel et je viens à Bamako pour vendre ça. Mm. Et quand je paye le miel, je le paye dans les bidons de 20 litres. Et arrivé à Bamako, j'ai des bidons spécifiques de 1 litre que je paye également. Et je tamise ce miel-là et je mets dans les bidons de 1 litre. Mm-hmm. Et je les vends aux consommateurs.
Et à combien ? Combien le litre ?
Le litre, localement, le litre, c'est 3 000 francs. Mmh.
Alors évidemment, il faut avoir le pouvoir d'achat pour acheter directement un litre, hein, qui est quand même, ça constitue quand même une somme. Vous avez dit au standard que vous avez renoncé à vendre au supermarché. Pourquoi ?
Oui, parce que j'ai fait un constat. Il y a beaucoup de mes clients, par exemple, quand je veux vendre le miel, vous allez voir qu'ils ont un petit miel à côté et le miel à côté. Et là, ils me montrent que vraiment, ils ont compris que le goût n'est pas comme ça se doit. Et il y a d'autres mêmes qui me donnent, on essaie ensemble, on trouve qu'il y a le mélange. Alors, du coup, j'ai un projet également de partir dans les supermarchés, aller les fournir, mais j'ai eu encore peur Et si je m'engage dans cette aventure, ça peut être néfaste contre mon business.
Pourquoi ? Parce que vous avez peur que votre miel soit coupé au moment de la distribution au supermarché ?
Voilà, j'ai eu peur. Pourquoi ? Parce que si les gens vont commencer à payer dans le supermarché et ça, c'est pas bon. Et quand je vais mélanger mon système ou mon miel là-bas, et les gens vont tous comparer ça comme ce sont les mêmes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté, j'ai pas voulu continuer, j'ai pas voulu faire aller livrer, mais aller vendre aux gens du supermarché.
Merci en tout cas, Al-Assad, de nous avoir appelé. Thiao est également en ligne avec nous. Vous êtes dans la région de Thiès, au Sénégal. Thiao, bonjour.
Bonjour.
Vous récoltez du miel, c'est votre seconde activité. Je crois que vous êtes aussi entrepreneur dans le bâtiment.
Oui.
Ouais. Et vous faites ça comme activité pour avoir un autre revenu ?
Bon, voilà, ici, je suis précisément dans la région de Thiès, le département du Canada.
Ouais.
Bon, maintenant, le miel, pour nous, on le récolte en général, bon, pour revendre ça à petite quantité, mais en général, on le garde chez nous.
Ah, d'accord. Voilà. Mais vous, donc, vous êtes, c'est de la cueillette. Comment vous faites où vous produisez du miel, clairement
non,
c'est du miel que vous allez chercher dans la forêt ?
On ne le produit pas, on le cherche dans la forêt parce que le miel venant de la forêt est plus naturel.
Plus naturel. Et comment vous faites, du coup, pour récolter le miel en forêt ?
Bon, pour récolter le miel en forêt, en général, parce qu'il y a deux types de miel, de niches de miel. Il y a du miel qui est sur par terre, supposons, dans le sol. En général, on trouve ce miel-là vers les régions rocheuses, comme Kédougou, Bakel et tout ça, dans les roches. Bon, ce miel-là, c'est différent du miel qu'on trouve sur les arbres. Ça dépend de l'arbre, que ça soit
sur les arbres, comment vous faites?
Sur les arbres, en général, on récolte le miel la nuit.
Oui.
On le récolte la nuit.
À cause de l'agressivité des abeilles, c'est ça?
Effectivement, à cause de l'agressivité des abeilles. En général, on les laisse jusqu'au soir, vers les minuit. Après, ils ont rentré dans la niche. À dormir.
Et là, comment vous faites concrètement ? Vous mettez le feu ou pas, Thiao ?
Maintenant, là, vous mettez le feu.
Ouais.
Si vous mettez le feu, vous avez des tas de paille. Après, vous allumez ça, vous mettez le feu. Si vous mettez le feu, ils vont disparaître. Ils vont quitter. Tous les abeilles vont quitter. Tu sais, la nuit, quand ils quittent, ils s'en vont. Maintenant, vous allez engrossir le trou et vous commencez à récolter. En général, vous pouvez avoir la chance d'avoir beaucoup de miel, beaucoup de miel si les abeilles ont duré là-bas, parce qu'ils peuvent faire là-bas des années. Effectivement.
Ça veut dire que vous dites, Thiao, que vous enfumez pour faire fuir les abeilles, pour pouvoir récolter le miel, pour les prévenir. Ça veut dire qu'officiellement, votre technique ne tue pas les abeilles ?
Ça ne les tue pas. Parce que une fois que la chaleur, qu'ils sentent la chaleur, ils vont s'envoler. Ça ne les tue pas. Okay. Peut-être quelques jours.
Restez en ligne avec nous. On a un apiculteur en Côte d'Ivoire qui est en ligne avec nous. Nazénion Silué, bonjour.
Bonjour, madame.
Vous êtes vous dirigez l'Union des apiculteurs du Handball qui a été créée il y a 3 ans, qui est un des plus gros regroupements du pays avec 8 coopératives d'environ 50 membres chacune. Je ne sais pas si vous avez pu entendre le témoignage de cet auditeur au Sénégal qui disait qu'il récoltait le miel la nuit en forêt en arrivant avec des bottes de paille enflammées pour faire fuir les abeilles. Dans la réalité, aujourd'hui, quand on parle de cueillette de miel dans les arbres, en forêt, que se passe-t-il exactement, Nazénion Silué ?
Oui, mais vraiment, il faut déjà le déplorer. Il faut le déplorer. Il faut dire que vous connaissez là, une insecte abeille en tant que telle, elle n'est pas solide. Donc quand on vous parlait déjà de paille, dites-vous que vous tuez déjà plein d'abeilles autour de vous. Parce que la chaleur, déjà la chaleur, la brève de paille, vous savez que les pailles, quand ça s'enflamme, ça a vraiment un rayon un peu plus large. Donc quand vous utilisez la paille, vous déjà au niveau des ailes des abeilles, vous tuez plein beaucoup. Et malheureusement, c'est vraiment la pratique qu'on observe encore en Afrique. Et encore une autre chose, c'est que ces apiculteurs sont à 80% des feux de brousse en Afrique. L'abeille, quand elle attaque l'apiculteur, tel qu'il le dit, c'est le Sénégalais, il ne tente pas à lâcher sa taille en plein bruit et il fuit. Donc vraiment, je déplore cette pratique. Mmh.
Thiao, est-ce que vous avez entendu les explications de Nazenyon Silué? Ah, il est parti, oui. Nazenyon Silué, vous, avec votre regroupement de coopératives, quel travail vous faites pour arriver à produire du miel sans abîmer les abeilles, sans brûler, sans mettre le feu aux ruches et pouvoir continuer à produire un miel de qualité?
Oui, merci madame. Il faut dire que l'explication que les paysans nous donnent, c'est que le coût du matériel est très élevé. Ça, oui. Je vous l'ai mentionné la dernière fois. Mais vous pouvez déjà, si vous ne pouvez pas vous faire des ruches modernes, mais vous pouvez déjà...
Ah, on a perdu Nazenyon Silué. Oui, on a un petit problème de ligne téléphonique. Il faut dire qu'il est dans la région de Katiola, dans le Hambol, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Peut-être, Alain Chevalier, vous pouvez nous donner aussi quelques explications. Vous avez dit au début de l'émission, effectivement, que c'est cher de fabriquer des ruches, même avec des matériaux locaux, de fabriquer aussi des tenues pour récolter le miel. Et que quand on est des individus non organisés, c'est souvent plus simple et plus logique de mettre le feu à un arbre pour récolter le miel.
Alors, c'est plus simple, plus logique et surtout traditionnel. Pour ce qui est de la qualité du miel, la différence est totale. C'est-à-dire que lorsque l'on cueille du miel, avec les techniques qui ont été expliquées, avec le feu, etc., donc c'est forcément destructeur de la colonie et des rayons de miel, la cire fond. Et on récolte un miel, le couvain, c'est-à-dire ce sont les larves et les œufs que pond la reine qui vont permettre donc de faire naître de nouvelles abeilles. Tout ça est mélangé, c'est-à-dire qu'on va broyer pour extraire le miel cette cire avec le couvain. Donc on a du jus de larves, on a des abeilles pressées, on a du miel et operculé et non operculé.
Donc c'est ça se sent quand on le mange, ce miel. On sent que c'est un miel qui a été brûlé.
Ça se sent et c'est surtout ces odeurs de fumée qui sont très très importantes. C'est-à-dire que ce qui est souvent considéré sur les marchés comme un miel naturel, ce sont ces types de miel. Mais c'est en train de s'inverser quand même. C'est-à-dire que les miels récoltés par des apiculteurs dans de bonnes conditions, c'est-à-dire que le miel operculé, bien conditionné, bien filtré, commence vraiment à être reconnu et à être considéré comme un bon miel dans de nombreux pays en Afrique, presque partout, surtout peut-être dans les zones plus urbaines.
Nous avons Aliou qui nous appelle au 33 7 64 45 51 41, qui nous appelle de Cotonou au Bénin. Bonjour Aliou.
Oui, bonjour madame.
Aliou, vous avez dit au standard que vous souhaitez vous lancer dans la production de miel. Pourquoi?
Ah, vraiment, j'ai remarqué que cette activité est une activité d'avenir, en ce sens que j'ai été, je dirais pas, une autorité de la place.
Alors, je suis désolée, Aliou, mais la ligne téléphonique est trop mauvaise. On m'a envoyé des notes sur ce que vous souhaitez dire, donc je pense que ce sera plus clair pour nos auditeurs. Vous avez croisé il y a quelque temps un fonctionnaire à Parakou qui a quitté son emploi et qui s'est formé à l'apiculture et qui vit très bien et qui vend 2500 CFA, ça fait 3,80 € le litre. Mais ça, c'était il y a déjà plusieurs années. Aujourd'hui, le miel coûte beaucoup plus cher. 3800 CFA, c'est-à-dire 5,70 € le litre. Est-ce que Alain Chevalier, avec les explications que vous nous donniez, on comprend bien que c'est un métier qui n'est pas simple quand on veut produire un miel de qualité, mais si on informe le consommateur, les apiculteurs qui produisent un miel de qualité peuvent parvenir à générer plus de revenus, à avoir une meilleure rentabilité?
Oui, oui, absolument. C'est-à-dire que le marché existe en Afrique pour des miels de qualité, bien conditionnés et qui sont vendus, qui peuvent être vendus plus cher que des miels de brousse. Hein. Alors, la dame du Burkina, tout à l'heure, vous lui demandiez, Emmanuel, si elle avait des parcelles. Mais en plus, le gros intérêt de l'apiculture, c'est qu'on n'a pas besoin de parcelles. On a besoin de voisins qui ont des parcelles.
Exactement.
Ça peut suffire.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on peut avoir...
Notamment un verger, petite... ça aide à la pollinisation en fait, des arbres fruitiers. Hein.
Absolument, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans un environnement boisé, avec de la ressource mellifère, même si on n'est pas propriétaire, on va pouvoir faire de l'apiculture sur un tout petit terrain et expliquer à son voisin que l'on aide à polliniser ses cultures et qu'il aura peut-être de meilleurs rendements, des fruits plus beaux, plus nombreux. Et qu'il aura un gain indirect grâce au service rendu par l'abeille.
Ouais, alors il faut d'ailleurs, moi j'ai lu qu'aux États-Unis on peut même faire payer ces services de pollinisation, c'est-à-dire que les apiculteurs qui installent leur ruche quelque part se font payer pour installer leur ruche et pour les services que ça rend aux agriculteurs. En France aussi maintenant c'est rémunéré
oui.
aussi ces services de pollinisation.
Il y a beaucoup d'apiculteurs qui justement ne produisent plus assez de miel et font de la pollinisation pour arrondir aussi les fins de mois.
Une dernière question à vous poser tous les deux qui êtes des spécialistes du miel. Est-ce que vous avez une découverte qui vous a marqué de miel, Alain Chevalier ?
Moi, les miels d'Afrique, ça a été une vraie découverte. En plus, dans certaines régions de forêt, on ne peut pas identifier les fleurs butinées parce que ce sont des lianes qui sont butinées dans la canopée à des hauteurs incroyables. Et voilà, on récolte des miels foncés, liquides, qui ont des parfums, des arômes incroyables de bananes, sans qu'il y ait peut-être de bananiers dans la région.
Et vous, Julien Henry ?
Pour parler des miels d'Afrique, le miel d'Oku, qui vient du Cameroun, qui est récolté dans les montagnes d'Oku, qui est une récolte qui est presque sacrée une fois tous les 3 ans, qui est un miel qui est tout blanc, qui est incroyable. Il va y avoir le miel de Forbes au Maroc, qui est un miel qui vous pique la gorge tellement
épicé,
il est puissant.
Épicé, ouais.
Il y a le miel de karité aussi, qu'on peut trouver au Bénin ou au Burkina Faso, qui va avoir un goût de caramel très beurré comme ça. Donc au Bénin, qui est souvent fabriqué aussi par des coopératives de femmes, parce que c'est elles qui s'occupent de la culture pour le karité.
Et on retrouve tout ça à la maison du miel à Paris.
Oui.
Vous avez publié aussi, Julien Henry, Les merveilles du miel aux éditions Tana. Merci d'être venu, d'être passé dans le studio des 7 milliards de voisins. Merci à vous, Alain Chevalier, président d'API Flordev, Association de solidarité internationale, pour faire de l'apiculture une activité génératrice de revenus. Et merci à Nazénion Silué, malgré la mauvaise qualité de la ligne, nous en sommes désolés pour les voisins et les voisines de l'Union des apiculteurs de la région du Hambol dans le nord de la Côte d'Ivoire. Demain, 7 milliards de voisins. Comment accepter que le couple parfait n'existe pas et sortir du mythe du couple idéal? On attend vos témoignages et vos sagesses au 33 7 64 45 51 41 dans quelques instants. Le journal, ça sera juste après Odoun, à retrouver dans la playlist de RFI Musique. Dangerous, hazardous, famous, witch of course, Lagos, you better hustle. Wishy, wishy, low man, shell, low duty, see that popo. Nowadays, go so, pay me for skin, wash your coat. Nino Joe, Nino, Missale, Mbale, Omandu, Ondu, Hindu, yeah. Otindu, Shondu.
Tout à l'heure.